Europe 1.
Et si on parlait sport ?
Jacques Vendroux.
Et si on parlait sport sur Europe 1 ? On reçoit, je crois savoir, un passionné, député de la Somme. Il joue à ses euros au football de temps en temps. Merci François Ruffin d'être avec nous en ce samedi. C'est vraiment un bon moment qu'on va passer, je suis sûr.
Bonjour.
Bonjour. Quatre thématiques. Le mot sport, c'est très important. La vision du sport, l'importance du sport. Et on termine bien sûr par quelques questions d'actualité. Et surtout par cette question que tout le monde attend, parce qu'on le fait systématiquement avec tous nos invités. Dans une autre vie, est-ce que vous auriez aimé être Gianni Longo, Marie-Josée Pérec, Amélie Mauresmo, Michel Platini, Zinedine Zidane, Bernard Hinault, Alain Prost, et j'en passe. On attend avec impatience cette question parce qu'elle intéresse tous les auditeurs d'Europe 1. Et pour conclure, eh bien, il y aura vos joies, vos peines, vos souvenirs et vos bons et mauvais moments. En tous les cas, François Ruffin, merci d'être avec nous.
Merci beaucoup. Vous savez, quand je vous entends, j'entends la voix qui était Interfootball, France Football, qui guidait ma jeunesse. Je me souviens du mariage d'une cousine et je suis resté dans la voiture le soir à écouter qu'est-ce que ça donnait. Ça donnait aussi une vision un peu particulière de la géographie parce qu'à cette époque-là, Louhans, Cuiseaux, Laval, Guignon, je croyais que c'était des grandes villes parce que j'entendais leurs noms régulièrement à la radio.
Sur Europe 1, Jacques Vendroux vous parle sport.
Alors je l'ai dit, quatre thématiques. Le mot sport, qu'est-ce que veut dire le mot sport pour vous ? C'est un mot magique.
Pour moi, ça rappelle l'enfance et la combativité. L'enfance, c'est plein de choses. Faire du sport, pour moi, le sport a été vraiment le moteur de mon enfance, de courir après un ballon, de courir tout court, d'être avec mon père pour regarder des matchs. Donc, c'est baigné dans l'enfance. Et par ailleurs, la combativité, moi, je l'ai attrapée par le biais du sport. De me bagarrer contre moi-même, déjà, de me dépasser moi-même et d'essayer de faire mieux que les autres aussi. Quoi.
C'est ce que je dis toujours à tous nos invités depuis le début de ces différentes émissions. Je crois qu'un homme politique et aussi ce qu'on appelle, je parle de votre niveau, hein, un homme politique de haut niveau comme vous, eh bien, vous êtes aussi un sportif de haut niveau. Vous êtes obligé quelque part, c'est ce que je dis avant un grand...
Vous répétez
avant...
parce que j'ai quand même fait la grimace. Ça fait longtemps que je me considère comme ayant échoué dans ma carrière.
Mais non. Quand je dis que vous êtes obligé de vous préparer, vous êtes obligé avant un grand débat, avant un grand meeting, avant une grande émission de télévision, avant une émission de radio, vous êtes obligé de vous préparer. Parce que vous devez être concentré et vous êtes quelque part, vous devez être en condition physique. Ben quelque part, c'est obligatoire.
D'abord, moi je continue à faire du sport très régulièrement. Je cours plusieurs fois par semaine. À la fois pour la condition physique, c'est une chose, mais aussi pour évacuer tout ce qu'il y a dans la tête qui ne va pas. C'est un moment où on repense aux choses autrement. Après, le foot le dimanche, là, c'est quand j'ai le temps, c'est autre chose. Parce que là, pendant une heure et demie, il n'y a que le ballon qui compte. Dans le quotidien, l'esprit est tellement pollué, parasité par des tas de choses qui ne vont pas, qu'avoir une heure et demie à penser qu'à un ballon sur un terrain, c'est une espèce de respiration formidable.
Alors, le sport, c'est un mot magique, c'est un mot important, vous venez de le dire, François Ruffin. Mais il faut qu'il soit peut-être encore beaucoup plus important dans les écoles, dans les maternelles, dans les lycées, dans les universités, etc. Je trouve que, très honnêtement, de l'extérieur, je trouve qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, honnêtement.
C'est toujours quelque chose qui, moi, me fait... me met
qui
mal,
vous
quoi.
Agace, qui vous énerve.
Qui me met mal. Je me souviens, l'an dernier, pendant ma campagne législative, on a fait une petite fête, on en fait dans tous les quartiers. Dans un quartier d'Amiens-Nord, il y a des centaines de gamins qui déboulent pour jouer au ballon et ainsi de suite. Et ils me demandent, mais est-ce que vous allez revenir la semaine prochaine ? Attends, je ne suis pas animateur, moi. Mais ça veut dire qu'en discutant avec les mômes, des tas de mômes qui aiment jouer au foot, qui aiment faire du basket, qui aiment faire du ping-pong et qui ne peuvent pas prendre de licence parce qu'ils n'ont pas les moyens pour ça, parce qu'ils ne sont pas menés vers les clubs. Et je pense qu'on devrait avoir une grande politique, pas un gamin qui veut faire du sport et qui ne fait pas de sport. C'est pour ça que là, j'ai encore fait une proposition de loi pour cet été. Parce que se dire que pendant l'été, il va y avoir des mômes qui vont rester à rien faire au bas de leur immeuble ou à la campagne, hein, dans les deux cas, sans être entraînés dans une activité ensemble, ça me déprime, quoi.
Alors, ce qui est important aussi, c'est qu'on parle bien sûr de l'école maternelle, on parle des lycées, on parle des universités, il y a plein de sujets, mais est-ce que vous ne pensez pas, et j'ai posé souvent la question à tous nos invités depuis qu'il y a cette séquence sur Europe 1, est-ce que vous ne pensez pas que le sport est une porte de sortie pour les gens des banlieues ? Au moment où on parle de banlieue, au moment où on essaye d'arranger ce qui peut se passer de très mal, la drogue, etc., dans les banlieues. Est-ce que le sport n'est pas quelque chose, un lien qui peut... Je ne dis pas que ça va tout résoudre, mais on n'y pense pas assez, j'ai l'impression. Hein.
Je voudrais prendre la chose autrement. C'est-à-dire que je pense que quand à l'école, ça ne va pas bien. Vous savez, l'univers politique, médiatique, économique, il est peuplé de gens qui réussissent à l'école et qui donc pensent que bah, l'école, c'est bien, ça émancipe. Ce qui est vrai. Et les instits, ils font tout pour. Mais des fois, ça coince. Quand ça ne va pas à l'école, moi, je suis convaincu qu'il faut aux gens un autre lieu où ils réussissent, où ils sont fiers d'eux-mêmes. Et si jamais, le samedi après-midi, un môme, il met un but dans une lucarne, eh ben, c'est une fierté qui va rejaillir sur le reste de la semaine, alors qu'il y a un risque pour qu'il soit dans l'autodévalorisation de soi. Donc c'est pour ça que je pense que le sport est important. Après, il ne faut pas qu'il y ait le mirage de la haute performance pour tout le monde. Même si on voit le lien entre banlieue, immigration et réussite sportive, quand on a Raymond Coppa, Michel Platini, Zinedine Zidane, Mbappé, qui sont les leaders des équipes de France respectives, sans qu'ils soient eux-mêmes immigrés. Mais enfin, ils sont Michel Platini est fils d'Italien. Enfin, voilà. Et donc, on voit le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Mais il ne faut pas, pour moi, faire penser à la haute performance pour tout le monde. En revanche, c'est un moment de fierté qui peut rejaillir sur le reste de l'existence.
Quoi. 30 minutes de sport, ce n'est pas beaucoup.
Par exemple, quand il a été mis en place le périscolaire, c'est un mot que j'aime pas, mais vous savez,
mais
autour de l'école. Bon, donc, j'aime pas parce que ça fait comme si le centre c'était l'école et le reste c'est ce qui tourne autour. Je pense que c'est quelque chose de vachement bien. Mais comment ça se fait que le centre d'activité le soir, où il peut y avoir des activités, moi, mes mômes, ils ont fait du hand, ils ont appris comme ça le basket, ils ont touché un petit peu à tout, comment ça se fait qu'à nouveau, il va y avoir quand même un peu la barrière du porte-monnaie? Moi, c'est ça qui me fait saigner le cœur, quoi, de voir que des gamins vont pas pouvoir accéder au centre le soir simplement parce que il faut payer. Le mercredi pareil, le samedi pareil. Je pense que c'est une barrière qu'on doit abolir. On doit abolir ça pour que toute l'année, y compris pendant les vacances, les gamins ils aient la possibilité d'accéder au sport qu'ils souhaitent. Ça fera des champions. C'est sûr que c'est ça qui fera des champions demain. On ne doit pas avoir pour but de produire des champions. Ce n'est pas le but final, ce n'est pas d'avoir des champions, mais c'est sûr que cette politique-là de démocratisation du sport, d'avoir pour objectif... En plus, moi, je suis beaucoup sur le terrain de la santé pour qu'on passe du curatif au préventif. Je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à améliorer la santé des gens aujourd'hui. Ce n'est pas en ayant des meilleurs scanners. Bon, tant mieux, il faut trouver les meilleurs médicaments, tant mieux. Mais ce n'est plus là-dessus que seront les grands chemins de progrès. Aujourd'hui, c'est sur la prévention. Et la première des préventions, on le sait, c'est le fait d'avoir une activité sportive, c'est de ne pas être sédentaire, c'est de bouger, c'est de ne pas rester devant un écran. C'est une lutte pour les parents. L'écran est une lutte permanente.
On oublie quand même que je veux dire, le sport est une porte de sortie, qu'on le veuille ou non. Un grand match à la télévision, un grand match à la radio, une compétition d'athlétisme, etc. On ne va pas des Olympiques dans quelques minutes. Quelque part, le grand spectacle sportif, je parle par exemple de cette finale du top 14 entre La Rochelle et le Stade Toulousain qui a été un match extraordinaire et il y a eu cette fin de match fabuleuse, la télévision rend service quelque part dans la mesure où les gens oublient leurs soucis, vous défendez plein de causes, les gens oublient leurs soucis en regardant la finale de la Coupe du Monde de football, même si elle a lieu au Qatar entre l'Argentine et la France, et regardent la finale du top 14 de rugby. C'est un échappatoire quelque part.
Je ne sais pas si c'est seulement un échappatoire, vous savez. Moi, je sais que ça a fait briller mon enfance. Maintenant, parfois, je peux avoir un peu plus de distance vis-à-vis de tout ça. Mais ça a fait briller mon enfance. L'équipe Tigana, Gires, Platini, Fernandez, c'est quelque chose qui a fait briller mon enfance. Et j'étais heureux que plus tard, j'ai la même chose pour mon fils. Avec la Coupe du Monde
de 2018,
avec une qualité parfois incertaine, mais enfin, à la fin, on a le trophée. J'étais heureux qu'il y ait ça pour mon fils, parce que ça illumine quelque part une enfance, quoi. Mais après, y a autre chose qui joue là-dedans, quand même. C'est la communauté nationale aussi. Moi, je dois dire, en toute honnêteté, que je parviens à regarder tous les sports quand il y a un maillot de bleu dessus. Je peux regarder du curling avec un maillot de bleu, je peux regarder des tournois de pétanque s'il y a un maillot bleu. Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi de, on joue la Marseillaise et on est derrière notre équipe nationale.
Le peuple de France est très cocardier. Quelque part.
Je ne sais pas si c'est spécifique au peuple de France.
Mais quand même.
En tout cas, je préfère que ça se règle comme ça, la fierté nationale, plutôt que par des guerres. Et je pense que c'est un moyen, le sport est un moyen de faire briller une fierté nationale sans que ça tourne au tragique, quoi. Une fois que le match est terminé, on salue quand même Lionel Messi et ses coéquipiers, quoi.
Je reviens à ce mot sport, qui est un mot extrêmement important dans la culture de tous les Français. Et je voudrais vous embarquer sur un sujet, je ne sais pas s'il est vraiment d'actualité, mais le mot sport n'est pas assez mis en valeur en France. On est cocardier, on a des belles équipes nationales, et je trouve que quelque part, on n'en fait pas assez. Vous êtes d'accord avec moi ?
Ce que je trouve, je vais me répéter, mais ce que je trouve, c'est que ce n'est pas seulement pour les équipes nationales. Là, par exemple, la préparation des Jeux Olympiques. On ne doit pas être seulement sur la haute performance. Si on veut réussir dans notre pays, il faut qu'il y ait une culture du sport qui se diffuse à la base. Il faut que...
Mais elle existe. Vous n'êtes pas sûr.
Non, je trouve que c'est pas suffisant. Quand on regarde le nombre d'adhérents dans les clubs sportifs et qu'on compare ce qui se fait en France avec ce qui se fait dans les pays qui nous entourent, l'Allemagne ou le Royaume-Uni, on est en dessous de ce qui se fait dans les pays alentours. Je pense qu'il y a une vraie démocratisation du sport, le fait qu'il n'y ait pas de barrière pour faire du sport, que naturellement on soit entraîné à faire du sport. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne va pas de soi aujourd'hui. Et je pense que c'est une vraie politique sociale. Et presque aujourd'hui, vous regardez les taux de dépression chez les jeunes. Enfin, le taux de dépression, il a doublé depuis la crise Covid. On est passé de 10 à 20% de dépression chez les jeunes. Je ne dis pas que c'est le seul moyen, hein. Il y a d'autres choses. Je crois à la culture aussi, je crois à d'autres choses. Mais le sport est quand même un moyen de se sentir un peu mieux dans sa tête. Et donc, permettre à tout le monde d'accéder au sport.
Le mot sport, vous l'avez dit, c'est un nom magique, c'est un nom qu'il faut respecter. N'oublions pas quand même, puisqu'on parle de sport collectif et notamment le football, puisque vous aimez le football, comme moi d'ailleurs, il manque de bénévoles. Il manque d'arbitres. Et ça aussi, c'est important. Le gamin ne peut pas aller au stade parce qu'il n'y a pas d'arbitre, parce qu'il n'y a pas de bénévole. Donc, il y a une campagne à faire. Il faut y aller. Il ne faut pas se poser de questions parce que vous avez des enfants, j'ai des enfants. À un moment, vous les amenez au stade, le match n'a pas lieu parce qu'il n'y a pas d'arbitre.
Alors, j'avais écrit un texte.
J'avais écrit
un texte qui s'appelait « Le miracle des maillots pliés et portés pour le dire ». Le maillot vert, un maillot vert à l'Assemblée nationale d'un petit club de chez moi de Haucourt-sur-Somme, qui m'avait valu au passage une amende de 1 500 € pour l'avoir porté à la tribune. Mais pour dire que quand il y a des maillots qui arrivent pliés dans les vestiaires le samedi après-midi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait du travail en amont, qui sont allés les mettre à la machine, qui vont tenir la buvette et qui forment un espèce de collectif comme ça où chacun donne de soi bénévolement pour que le club tourne.
C'est ce qu'on appelle la culture du maillot et c'est ce qu'on appelle aussi, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, la culture du vestiaire.
Ouais.
La culture du vestiaire est sans doute l'une des choses les plus importantes de la vie.
En tout
vous
cas,
devenez copain avec quelqu'un qui n'est pas forcément votre
il
copain.
Il se passe des choses dans les vestiaires presque plus parfois que sur le terrain de foot.
Bien sûr.
Voilà, c'est un endroit où se passent des messages, les gens se parlent les uns les autres d'une autre manière. Mais, et donc, oui, ce truc que j'avais fait à la tribune, ça avait trouvé un écho incroyable dans les clubs de basket, de gym, et ainsi de suite. Parce que pour une fois, le bénévole, pour une fois, le dirigeant de club, mais de petit club, il était valorisé. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une grande question sur comment on valorise ça, comment on le valorise peut-être en ayant, vous voyez, du temps qui puisse être considéré comme il y a des délégations syndicales et on peut avoir du temps pour faire ça. Il peut y avoir des délégations de bénévolat et qu'on ait un peu de temps pour s'occuper des gamins dans les clubs, quoi.
Oui, mais qu'on le veuille ou non, il manque de bénévoles, il manque d'arbitres, il manque de dirigeants, tout simplement parce que, pourquoi ? Vous le savez aussi bien que moi. Parce qu'il y a de la violence. Il y a de la violence dans certains petits clubs où vous avez le derby entre deux clubs de la Somme ou deux clubs du Pas-de-Calais, etc. Parce qu'on est nés à Calais tous les deux, donc c'est pour ça que je fais ce clin d'œil au Pas-de-Calais. Mais il y a des matchs qui ne peuvent pas se dérouler parce qu'il y a de la violence, parce qu'on n'est pas éduqué, on n'est pas élevé. Regardez ce qui se passe dans les tribunes actuellement de certains clubs de Ligue 1.
C'est vrai, mais je ne suis pas sûr que dans les petits clubs, ce soit pour cette raison-là qu'il y ait des difficultés à trouver des bénévoles, à trouver des dirigeants. C'est plutôt un resserrement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on se resserre, on se replie un petit peu sur soi, et aussi que ce n'est pas valorisé dans la sphère publique. Autant on hypervalorise les hautes performances du sport, autant venir dire à tous les dirigeants de club, à tous les entraîneurs bénévoles, à tous les papas, mamans qui vont conduire les gamins sur les stades, vous êtes importants, c'est vous, en fin de compte, qui faites vraiment vivre le sport dans ce pays. Je pense que c'est un discours qui n'est pas largement tenu et qui devrait l'être. À l'occasion, je le redis, qu'à l'occasion des Jeux Olympiques, on n'en est pas profité pour avoir une vraie politique de démocratisation du sport dans notre pays, je trouve que c'est triste. Qu'on en reste à est-ce qu'on va avoir des champions ? Est-ce que les sites seront prêts ? Je trouve ça triste que ça ne se passe pas par... on en profite pour faire monter la culture du sport, à la fois à l'école, en dehors de l'école, dans les clubs, et voir un effet d'entraînement dans notre pays.
Merci François Ruffin d'être sur Europe 1. On va parler de sport. Parce que je vous le dis franchement, il y a certains leaders politiques, j'ai envie de les entendre parce qu'ils ont des bonnes idées, parce que ce sont des passionnés. On verra tout à l'heure vos rêves, vos souvenirs, etc. Je suis persuadé que... C'est passionnant. On a parlé du mot sport il y a quelques secondes. Je voudrais qu'on parle de la vision du sport. Quelle est votre vision du sport actuel? Les professionnels, les amateurs, les stades, les structures, etc. Quelle est... Imaginons, vous arrivez au pouvoir. Qu'est-ce que vous prenez comme première décision concernant le sport, même s'il y a quelques priorités avant? Je reconnais.
Je pense déjà l'avoir un peu dit, mais pour moi, c'est d'abord qu'est-ce qu'on va faire pour les clubs amateurs? Qu'est-ce qu'on va faire pour les jeunes, en fait? Je pense que la politique du sport est liée à une politique de la jeunesse. Et il doit y avoir la possibilité d'accéder au sport qu'on veut, quand on veut. Et qu'il n'y ait pas de barrière du porte-monnaie. Je me souviens là d'une rencontre que je fais autour du Secours Populaire à Abbeville, il n'y a pas longtemps, avec une maman qui dit « Bah voilà, mon gamin, il voulait jouer au ping-pong, mais vu le prix qui était demandé pour la licence, ce n'est pas possible, je ne vais pas pouvoir le mettre à ça. Je ne trouve pas ça normal. » Enfin, moi, chaque fois, ça me brise le cœur. Donc, ma priorité, très claire, mais j'en ai déjà discuté avec d'autres, avec Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, et ainsi de suite, la priorité, elle doit être à la démocratisation du sport. Elle doit être à ce que tout enfant qui veut faire du sport le puisse, et que si jamais il ne le veut pas, on ne l'oblige pas. Mais enfin, on le pousse un peu, on lui donne envie, on lui montre les différents sports qui puissent exister. Pour moi, la priorité des priorités en matière de sport, elle est celle-là. Ce qui suppose aussi qu'à l'intérieur du monde du sport, il y ait des contributions qui soient faites pour, je dirais, que ça ruisselle un petit peu. Que là où il y a beaucoup d'argent, il y ait la possibilité qu'on fasse ruisseler, que les petits clubs puissent recevoir des gros clubs.
Ça veut dire que le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice fassent ce qu'on appelle, entre guillemets, des reversements à des clubs amateurs qui en ont besoin. Parce que vous savez aussi bien que moi, François Ruffin, parce que je sais que vous connaissez très bien le sport et notamment le football, il y a des clubs qui disparaissent. Il y a beaucoup de clubs qui disparaissent parce qu'ils n'ont plus les moyens.
Pour des raisons financières, pour des raisons où vous voyez par exemple chez moi, tout le pouvoir s'est recentré avec la fin de la région Picardie, s'est recentré sur le Nord-Pas-de-Calais, les déplacements des arbitres et tout ça, ça coûte de plus en plus cher. Donc il y a des raisons aussi qui font qu'il y a une espèce d'éloignement où on se sent impuissant. Il y a des normes supplémentaires qui sont apportées, on dit on ne va pas réussir à se mettre aux normes, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de petits clubs qui disparaissent. Donc oui, je pense qu'il y a le besoin que Marseille, Nice...
Ils n'en font pas assez, ils le font... Mais ils n'en font pas.
Il faut des règles, il faut une loi, et puis il faut que ça soit fait de bonne volonté, que les dirigeants de ces clubs-là, ils comprennent bien que...
Vous n'avez jamais pensé un jour déposer un projet de loi?
Si, on en a déposé. Marie-Georges Buffet avait bien déposé un texte en ce sens. Même, je me souviens de Michel Zumkeller, qui était un député UDI. On avait même joué au foot dans la cour de l'Assemblée ensemble pour illustrer un peu le sujet. Avait déposé un texte qui demandait à ce qu'il y ait une reversion. Donc c'était plutôt un député de centre-droit, mais lui-même considérait que... Il faut un espèce d'équilibre qui puisse se tenir. Donc voilà, là, en tout cas, ma priorité des priorités, c'est très clair, ça ne serait pas un gamin sans sport. Mais ça veut dire aussi des animateurs qui sont formés potentiellement à encadrer dans les clubs, quoi.
Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas à ce sujet-là actuellement en France? Parce que ce que vous défendez, c'est rationnel, c'est logique. Je veux dire que vous demandez à tout le monde, à toutes les familles, que les enfants fassent du sport gratuitement. Pourquoi pas? C'est ce qui se passe d'ailleurs, je vous signale, en Allemagne. C'est ce qui se passe aux Pays-Bas et c'est ce qui se passe surtout en Italie. C'est la gratuité du sport partout.
Ce qui ne va pas, c'est qu'il faut une volonté politique à ça. Il faut le poser comme un objectif. Pour moi, c'est un objectif à la fois sportif, mais c'est un objectif éducatif, je le dis. D'ailleurs, à l'occasion de la proposition de loi qu'on a posée sur les vacances, et donc il y a un volet sport, qui a un volet activité pendant l'été, l'intuition que j'avais, que quand un gamin n'allait pas bien, il réussisse quelque chose dans ce temps en dehors de l'école, que ça rejaillisse sur le temps scolaire, c'est prouvé dans plein de rapports. Qui disent, d'une part, l'été, les temps en dehors de l'école, ce sont le temps des inégalités parce qu'il y a des familles qui ont les moyens de partir, qui ont les moyens de payer des activités et d'autres familles qui n'ont pas les moyens. Donc là, il y a une grande injustice qui se crée pendant ce temps-là. Mais ensuite, qui dit bien que quand un gamin... Il fait quelque chose de bien pendant l'été, quand il fait du sport, quand il respire, quand il réussit à quelque chose, ça a des chances de rejaillir pendant l'année sur son parcours scolaire. Donc je pense que dire qu'il ne s'agit pas... Parce que le sport est considéré presque comme un truc périphérique, anodin, qui ne serait pas important, où ça serait juste les champions. Maintenant, dire que Le sport, c'est une question éducative et c'est une question sanitaire. C'est une question de santé. C'est à la fois une question de santé physique, évidemment. La meilleure manière de lutter contre l'obésité, c'est de bouger. Bon. Et c'est une question de santé psychologique. Pour que les gens se sentent bien dans leur tête, bouger, ça fait du bien aussi. Alors, être inscrit dans un collectif, parce que vous savez, faire du sport, c'est pas tout seul sur son tapis roulant en général. C'est quand même aussi aller rencontrer des gens, être inscrit dans un collectif et être bien ensemble.
Le sport sur un tapis roulant, franchement, c'est pas ma tasse de thé. Hein.
Non, mais ça existe.
Ça existe, mais bon, faut faire avec.
Qu'il y a des gens qui prennent du plaisir. Moi aussi, je suis au rameur de la salle de musculation. Je suis condamné, quand je suis condamné à être à l'Assemblée nationale, je vais à ce que j'appelle la salle Benalla, puisque Alexandre Benalla a dit qu'il venait à l'Assemblée pour aller à la bibliothèque et à la salle de muscu.
Alors, je vais vous demander un exemple très précis.
Ça se voit pas trop, que je vais à la salle de muscu.
Non, c'est pas mal. Vous êtes affûté, en tous les cas. Vous êtes affûté. Non, ce que je voulais vous dire, vous êtes député de la Somme. Dans la Somme, il y a un club qui s'appelle le Amiens SC, que je connais bien, qui est un club avec un beau stade, etc. Le stade de la Licorne, c'est ça? Est-ce que ce club, par exemple, qui est un club professionnel, qui reste en Ligue 2 cette saison, est-ce que ce club aide les petits clubs qui sont autour? Est-ce que, par exemple, c'est un sujet que vous avez évoqué avec le président du club de Amiens SC?
Oui. Ça n'a pas été évoqué avec lui. Cette question-là n'a pas été évoquée.
Mais on peut l'évoquer.
Oui. Je pense que ça mériterait d'être évoqué. Comment il y a une politique de formation, je sais, au sein de ce club-là. Comment ça peut rejaillir, en effet, sur ce qui se passe autour? C'est pas quelque chose qui a été évoqué avec lui. Donc, je vais pas vous mentir.
Oui, mais vous avez envie de le faire.
Oui.
On peut le faire.
Ce que j'ai envie, c'est que, franchement, c'est qu'il y a au-delà de tel ou tel club, mais qu'il y a une vraie interrogation sur la place du sport dans la société. Et qu'on se dise que c'est pas quelque chose de périphérique, que c'est pas quelque chose d'anodin, mais que c'est de la politique, au bon sens. C'est-à-dire, c'est la vie de la cité. Et que ça soit pris en charge par du politique, en liaison avec des acteurs économiques et les clubs, évidemment.
C'est incroyable ce que vous dites, François Ruffin, parce que tous les leaders politiques qu'on reçoit ici à Europe 1, dans cette émission, et si on parlait de sport, vous avez tous un point commun. Donc ça veut dire qu'il y en a quelque part des points communs.
Mais peut-être que vous ne les invitez pas par hasard non plus.
Non, je vous invite parce que vous aimez le sport, parce que vous jouez au football, et il y a d'autres opposants politiques à vous, par exemple, qui aiment le sport. Et ça revient régulièrement, ce sujet de tous les milieux politiques, de gauche, de droite, du milieu, etc., avec un point commun qui vous réunit, c'est-à-dire qu'on a quand même l'impression... Et je reviens à ma question, on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez.
Une idée me vient là. Vous voyez, je pense qu'on a une vision de la politique en France et ça se fait souvent par les bâtiments. Quand il faut rénover les quartiers populaires, qu'est-ce qu'on fait? On pense à détruire des bâtiments, reconstruire des petits HLM. Quand on doit faire, par exemple, quelque chose sur le handicap, on pense à faire une maison de l'habitat. Bon, quand il s'agit de santé, on construit un nouvel hôpital qui coûte super cher et on ne pense pas toujours aux infirmiers qui sont à l'intérieur. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui est de la même logique dans le monde du sport.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'on pense beaucoup aux lieux. On pense beaucoup à des piscines, on pense à des patinoires, on pense à des stades, on investit des millions là-dedans. Et où est l'humain? Au fond, ce qui va compter le plus, c'est si on a les éducateurs, si on a les animateurs, si on a une politique humaine qui fait qu'on va mettre des humains à côté des humains, en face des petits, qu'il y aura des grands, et que c'est comme ça qu'il y a quelque chose qui va passer. Et c'est comme si ça, c'était secondaire. On pense d'abord à l'établissement, au lieu, plus qu'à l'humain qu'on va mettre derrière, quoi.
Je vais vous raconter une anecdote. En 1959... quand le général de Gaulle est au pouvoir, président de la République. Il a un ministre qui s'appelle Maurice Herzog, qui est son secrétaire d'État au sport, que vous connaissez de nom, sans doute. Et de Gaulle demande à Herzog d'obliger les villes de moyenne et grande importance à construire beaucoup, beaucoup de piscines. Ça n'a jamais été suivi d'effet. Vous le savez, ça?
Non, je ne sais pas, parce que maintenant, il y a quand même pas mal de piscines. Maintenant, c'est comment on
ça
fait pour
que... Ça s'appelle une piscine tournesol.
Par exemple, dire des choses positives, quand même. Hein, on peut, t'entends. Hein.
Ah bah, j'espère.
Mes gamins ont grandi en école dans un quartier populaire. Eh bien, tous les ans, il y a un trimestre avec l'école où ils vont à la piscine. Ce qui fait que tous les gamins, moi, je les avais amenés déjà à la piscine de mon côté, mais tous les gamins, quand ils arrivent en sixième, eh bien... Ils savent pas forcément, ils vont pas battre le record du 50 mètres en brasse coulée, mais ils savent barboter, ils savent ne pas se noyer. Et donc, je sais que ça se fait dans ma ville, je sais que ça se fait pas partout. mais de l'idée que voilà, ça y est, on entre en sixième.
Je vous coupe, François Ruffin, il y a beaucoup de gamins et gamines qui ne savent pas nager.
Ben oui, voilà, c'est pour ça. J'ai lu là, un Français sur sept qui ne sait pas nager aujourd'hui. Mais,
c'est pas normal. Ben,
et donc, mais,
ça devrait être obligatoire.
Ça veut dire qu'il faut une politique liée à ça. Je veux dire, une sens, pas quelque chose de partisan, mais il faut un choix de vie ensemble qui dit, ben voilà, on a pour objectif, on se fixe pour objectif ensemble qu'à l'entrée en sixième, tous les gamins sachent nager. Et voilà comment on va faire. Et ben, il va y avoir un trimestre et ça va être pris en charge par l'éducation nationale qui est le meilleur outil quand même à destination de la jeunesse. Quoi.
On peut parler d'Amiens, on peut parler de Calais, on peut parler de toutes les villes. Il n'y a pas assez d'endroits pour faire du sport. Ça, ce n'est pas propre à Amiens et Calais, parce que là, je fais un petit clin d'œil, je veux dire, à notre, le fait qu'on soit nés à Calais tous les deux. Mais je veux dire, il y a plein de grandes villes, même de villes de moyenne importance, on en parlait quelques secondes. Il manque de structure. Mais vous le savez. Paris. Regardez Paris.
Alors, Paris, c'est catastrophique.
Non, mais regardez Paris. Autour de Paris, il y a des stabilisés qui sont dans un état lamentable.
Je pense que Paris est une situation particulière parce que faire du sport, c'est l'une des choses qui fait que, excusez-moi, mais je n'aime pas vivre à Paris. J'aime pas vivre à Paris parce que faire du sport, moi, je sors de chez moi, je vais courir le long de la Somme, dans les ortillonnages, je respire, qu'est-ce qu'on est bien. Courir à Paris,
c'est
bon. Il y a les quais de Seine, mais bon, mais c'est pas voilà. Faire du sport à Paris,
il y a pas de stade, il y a pas de petit stade.
Ceci dit, je pense que dans plein de villes, en revanche, il y a des structures. Je vous redis, Monsieur Vendroux, je pense que il faut les structures, mais il faut l'humain pour amener les gens vers les structures, pour amener les gens vers les clubs, pour qu'ils s'y sentent bien, pour qu'ils soient accompagnés dans une activité qui était peut-être pas naturelle pour eux. Je pense qu'il faut penser à l'humain, il faut penser à des animateurs, il faut penser à des éducateurs, il faut penser à un espèce de maillage qui fait qu'on amène les enfants, les adolescents vers des activités sportives. Mais aussi, on peut penser aux plus âgés, on peut penser aux personnes qui sont en situation de handicap, que voilà, il y a une politique du sport dans son ensemble qui passe pas que par des structures, mais qui passe aussi par comment on fait pour que ça soit canalisé vers ces structures.
Vous me tendez une perche. Comment on fait revenir l'humain, je dis bien l'humain, dans le sport ? Comment on fait ?
L'humain d'abord.
L'humain d'abord. L'affect.
L'affect. Je pense que le sport déborde. Il y a quand même encore plein d'affect dans le sport. Même sur les matchs de 5e division départementale.
Bien sûr.
C'est toujours un moment qui est très, très, très chargé en affect. Il ne me semble pas que le sport ait été déserté par l'humain. Maintenant, là, je me porte tendre une perche dans un autre sens. C'est comment on fait pour que l'argent écrase pas complètement le monde du sport ? Parce que là, je rentre dans mes trucs à moi. Mais c'est vrai que, par exemple, vous voyez, moi, je suis beaucoup moins intéressé à la Champions League aujourd'hui que je ne l'étais à la Ligue des Champions dans les années 80-90. On peut dire parce que t'es vieux, ça ne t'intéresse plus et tout ça. Mais pourquoi ? Parce qu'au fond...
Non, vous n'êtes pas vieux, François Ruffin. Je suis plus âgé que vous, mais on a un point commun. C'est-à-dire que la Ligue des Champions ou la Coupe d'Europe des clubs champions dans une autre vie, il y avait un club, voire deux clubs qui étaient qualifiés pour la Ligue des Champions. Là maintenant, en Angleterre, vous avez entre 5 ou 6 clubs. En France, vous avez 3 clubs. En Italie, vous avez 4 clubs. L'élitisme n'existe plus. Et ça, c'est important parce que c'est des problèmes d'argent.
Et toujours sur les questions d'argent. Bon, on sait que depuis l'arrêt Bosman, qui permet d'avoir autant d'étrangers qu'on veut dans le club, alors qu'auparavant c'était limité à 3 par club, on a une concentration des meilleurs joueurs sur quelques clubs en Europe, ce qui fait que, vous voyez, j'ai des petits souvenirs qui me reviennent comme ça. Laval.
Le stade Lavallois.
Ouais, qui arrive, comment, en demi-finale, en finale,
oui.
Vous vous en souvenez, vous ?
Très bien.
On avait le FC Malines, les clubs belges, Anderlecht. C'était des clubs qui ont existé. La Belgique avait des clubs qui arrivaient à briller au niveau international parce que les meilleurs éléments partaient pas seulement vers Milan, seulement vers Paris, seulement vers Madrid ou Barcelone.
J'adore quand vous parlez comme ça. Continuez.
Et l'arrivée de l'argent, enfin de Larry Bosman, à la fois des lois et de l'hyperconcentration de l'argent, a donné une hyperconcentration des moyens à quelques clubs qui finalement a tué quelque chose qui est essentiel dans le sport quand on le regarde, c'est l'incertitude. C'est le hasard. C'est pas savoir ce qui va se passer. Or, avec de tels déséquilibres entre les clubs, on sait d'avance en Champions League, à part peut-être dans le dernier carré, mais on sait d'avance grosso modo ce qui va se passer. Il y a beaucoup, beaucoup moins de surprises. Et je pense que l'argent a tué cet élément-là qui est la surprise dans le sport. D'ailleurs, ça a été théorisé. Hein. Il y avait c'est des entreprises qui doivent être rentables, il a fallu éliminer l'incertitude dans le sport. Ils ont expliqué comment ils ont fait. Aussi, le mode de vous voyez, quand c'était en match aller-retour, élimination directe jusqu'à assez tard. Y avait une grande incertitude, parce que même un petit club, sur un match aller-retour, il peut réussir un exploit. Il sort les tripes, il y va avec la gnaque, il laisse rien passer. Bon, et ça, ça a pu arriver.
Je vais vous faire un aveu.
Maintenant, quand c'est des espèces de championnats...
Mais voilà, c'est des mini-championnats pour arriver en huitième de finale de la Ligue des Champions.
Ça élimine l'incertitude.
Mais c'est plus du tout la même chose. En tous les cas, je suis ravi. On est quasiment deux. On est du même avis. Voilà, Vendroux et Ruffin sont du même avis. Ok, d'accord, on va en profiter. Et si on parlait sport avec François Ruffin, quatrième thématique, François
Déjà,
Ruffin.
Déjà, j'ai pas vu le temps passer, moi.
Ben oui, mais vous parlez tellement bien de sport, etc. Alors évidemment, c'est un sujet qui est récurrent, qui est peut-être un peu répétitif, mais l'importance du sport dans la vie des Français, on l'a évoqué à plusieurs reprises. Je veux dire, il faut aussi, et c'est très important, vous l'avez évoqué il y a quelques secondes, et c'est pour ça que je vous rebranche, entre guillemets, sur ce sujet-là. Il y a le sport à l'école, il y a le sport partout, il y a la compétition. Mais c'est important, je veux dire, d'entretenir ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Parce que si vous êtes député de la Somme, il y a forcément des gens qui ont été députés avant vous.
Ah bah oui.
Vous êtes d'accord avec moi.
Ah bah ça.
Et vous les avez peut-être imités, peut-être que vous les avez combattus. Mais en tous les cas, il y a des gens qui ont fait le boulot avant vous pour que vous puissiez maintenant être député de la Somme. En sport, c'est pareil. Le devoir de mémoire, c'est très, très important. Et c'est pour ça que j'ai fait une liaison avec l'importance du sport. Vous êtes d'accord avec moi ?
Bon, je pense que de toute façon, le sport est pour beaucoup la mémoire. C'est-à-dire qu'on a tous des instants qui brillent dans notre tête, et quand on entre sur un terrain, en fin de compte, c'est habité par ça qu'on y rentre. On y rentre en jouant à notre rôle, en jouant des choses qu'on a vues à la télé, qu'on cherche à imiter, et qui continuent à être une lumière des décennies plus tard, quoi.
Ce qui est important aussi, c'est que vous l'avez dit tout à l'heure, l'élitisme est important, même s'il faut respecter le sport de base, même s'il faut respecter le sport à l'école, dans les lycées et même dans les universités, etc. L'élitisme pour être champion du monde, l'élitisme pour être champion d'Europe, l'élitisme pour être champion olympique, ça n'arrive pas par hasard. Et ça crée nos rêves. Ça crée nos rêves, quelque part.
Oui, maintenant...
Même si on peut les combattre différemment, mais ça crée des rêves.
Oui, moi j'ai toujours été porté par des idoles. J'ai toujours eu des posters dans ma chambre avec des gens qui me tirent vers le haut. Donc ça a été Michel Platini, l'équipe de 1984. Ça a été ensuite, je suis sorti du domaine sportif, mais ça a pu être François Cavana, ça a pu être Pierre Desproges, ça a pu être Renaud Brassens. Mais je pense qu'avoir des modèles... c'est pas négatif. On peut dire « Ah, mais il cherche juste à imiter, il n'est pas lui-même ». Non, c'est des gens qui vous tirent vers le haut. Vous savez, il y a tellement de motifs de découragement tous les jours, de baisser les bras, de se dire « À quoi bon tout ça ?» Avoir des gens qui vous tirent vers le haut et qui vous disent « Voilà, il y a moyen d'aller viser les étoiles, quoi ».
On va faire plus loin sur vos souvenirs, parce que vraiment, c'est intéressant, c'est même fabuleux. Quels sont vos meilleurs souvenirs en sport, vos meilleurs souvenirs de téléspectateurs, de sportifs? Qu'est-ce que vous gardez? Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai des posters de Platini, etc. Est-ce que vos parents ont joué un rôle extrêmement important dans votre culture du sport?
Oui, je pense que même c'est une espèce de filiation, le sport. En tout cas, pour moi, il y a une transmission. Et je peux même dire que c'était les moments où j'étais bien avec mon père. C'est les moments où on regardait les matchs de télé. Mais même le rugby, par exemple, quand ça se joue en Nouvelle-Zélande, on se levait à 4h du matin pour regarder la France jouer sa demi-finale. Et où j'étais tranquille avec mon père, mes pieds glissaient sous ses cuisses. Et il y avait là quelque chose d'un cocon, d'un amour, d'une tendresse qui... peut-être parfois plus difficile à exprimer en dehors de ces moments-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est lié à la transmission,
donc,
à la filiation.
Donc je reviens à ma question. Votre père était le détonateur, quelque part, de votre passion pour le sport, comme lui l'était. Et il a essayé de vous embarquer avec lui.
Je pense qu'il n'a pas eu trop de mal. Je pense que j'étais pire. J'ai fonctionné avec le sport de manière obsessionnelle, à la fois sur le sport. Regardez,
je vous dis,
les samedis soirs, il y avait beau y avoir repas de famille ou pas repas de famille, pour moi, je devais écouter France Football, Inter Football. Vous savez, on avait des petits carnets à l'époque où on notait les résultats de tous les trucs, on refaisait le classement. Moi, je faisais tout ça. Évidemment, j'avais pas l'argent pour mettre toutes les photos. J'avais l'album Panini, mais j'avais pas l'argent pour toutes les photos, quoi. Donc, et ensuite, j'ai fonctionné de manière obsessionnelle sur ma pratique du sport. Alors, un souvenir comme ça, Amiens était une ville communiste dans les années 80. Nous, on partait pas l'été, non pas parce que mes parents avaient pas les moyens, mais juste parce que mon père travaillait dans une conserverie, et donc on travaille beaucoup l'été, donc on partait pas l'été. Pour 10 francs par mois, vous imaginez, 1,50 €, il y avait tennis à volonté avec un animateur qui était là, et on pouvait jouer du matin au soir. Ben oui, de manière obsessionnelle.
C'est dans une autre vie, ça.
Ouais, mais voilà ce que je veux dire. Je chercherai au moins à ce que les enfants d'aujourd'hui, ils aient ce dont moi j'ai bénéficié. 1,50€ et vous faites du sport que vous voulez du matin au soir. C'est dingue quand même.
Mais c'est fabuleux, et c'est
donc,
fabuleux.
Et donc, bah, de manière obsessionnelle, oui, j'ai pratiqué le tennis comme ça du matin au soir et je m'y suis mis. D'ailleurs, j'avais été repéré. C'est l'un des trucs qui fait que j'en veux un petit peu à mes parents, mais bon, ils le savent. C'est que j'avais été repéré par la Fédération Française de Tennis pour faire 3 entraînements par semaine et ainsi de suite. Ils m'avaient fait passer des tests et finalement, ils ont dit non, l'école d'abord. Donc ça m'avait un peu frustré. Donc, mais voilà, de manière obsessionnelle, j'ai à la fois regardé du sport, écouté du sport et pratiqué du sport.
Alors, ce qui est important, est-ce que le sport, quelque part, grâce à l'ambiance qu'il y avait dans les différents clubs que vous avez côtoyés, est-ce que le sport vous a rendu service pour réussir en politique ? Parce que vous faites partie, qu'on le veuille ou non, et vous le savez aussi bien que moi, vous faites partie des leaders politiques actuellement.
Vous savez, moi,
vous avez annoncé que... À un moment ou à un autre, peut-être que vous allez devenir président de la République. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que ça peut vous aider.
Alors, moi, quand même, j'entre en politique très tard, après mes 40 ans, ce qui est tard pour quelqu'un qui et avant, j'ai pas de mandat, je me présente à aucune élection. En revanche, je sais que la pratique du sport, et même de la course à pied, de l'endurance, même quand ça ne va pas se dépasser. C'est quelque chose qui a fait que j'ai pu lancer mon propre journal, le tenir dans la durée, même dans les coups durs, malgré les procès.
Je rappelle que vous avez été journaliste.
Oui,
hein,
et affronter l'adversité, c'est la norme quand on est dans le sport. On affronte de l'adversité. Donc être possiblement dans une certaine conflictualité, pas avoir peur d'affronter un adversaire, je pense que je l'ai acquis par le sport. Et qu'ensuite, ça a été mis dans ma pratique du journalisme, qui est quand même un journalisme engagé, on va dire, et que ça a été mis aussi ensuite dans ma pratique politique.
Sauf François Ruffin, je reviens toujours à cette première question, vous avez appris grâce au sport à gagner et à perdre.
Oui, et même, vous savez, j'ai joué pendant 12 ans à l'association sportive du foyer rural de Rimont-sur-Ancq, section football, équipe B. Donc, c'est dire la modestie du niveau, mais avec joie et en allant pêcher les ballons dans les étangs autour. C'est tout ça aussi, le sport. Bon, et donc, ça veut dire que quand même, il y a eu beaucoup de défaites au milieu de tout ça. Et on apprend...
Enfin, il n'y a pas eu que des défaites politiques, mais ça vous apprend à perdre, ça vous apprend à gagner aussi.
Oui, bah pour l'instant, je n'ai pas subi de défaite politique sur une élection en compte propre. Maintenant, je dis toujours, quand on est de gauche, c'est quand même aussi être habitué à la défaite. Donc, il faut savoir faire le dos rond quand ça souffle trop fort en face et quand même rester debout dans ces moments-là, pas se décourager. Et ça, je pense qu'il y a une certaine combativité, y compris dans les moments durs. Vous savez, quand vous courez à 20 km, il y a des moments où vous dites... qu'est-ce que je fais là, quoi ? Bon, et ben vous continuez à passer par-dessus ça. Et je pense que ça, c'est quelque chose que le sport enseigne. Je suis vraiment convaincu que pour notre jeunesse, vous voyez, bon, moi, j'en parle plus pour mes enfants, j'en parle plus pour ceux qui viennent derrière que pour ce que je suis moi-même aujourd'hui.
Vos enfants aiment le sport ?
Oui.
Parlait d'intimité tout à l'heure. Vous pouvez nous le dire, vos enfants sont supporters d'un club, etc.
Parfois, mon fils, il préfère FIFA au sport en vrai, quoi. Il préfère la Switch au sport en vrai. Mais si, il fait du hand, il aime bien le hand. Et voilà, donc, y a une transmission. Ma fille, elle est capable de toucher à tout et de tout aimer.
Je rêve de vous poser la question. Dans une autre vie, vous auriez aimé être Marie-Josée Pérec, Jeannie Longo, Amélie Mauresmo. Peut-être que j'oublie, j'en oublie certainement. Michel Platini, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Zinedine Zidane, Bernard Hinault, Alain Prost. Est-ce que dans une autre vie, je le répète, vous avez envisagé de faire la finale de Roland-Garros et en 5-7, vous battez Federer ? J'exagère, hein ?
Non, mais
j'exagère volontairement.
Vous n'exagérez pas, je pense que... Mais ce n'est pas très original, le nom que je vais vous sortir est le nom d'une génération. Michel Platini, il est évident que quand j'avais 6 ans...
Non, mais il y en a qui aiment Zidane, il y en a qui aiment Jean-Pierre Papin, je veux dire, c'est pas...
Quand j'avais entre 6 et 10 ans et que je suis de la génération Platini, et vous savez, compte tenu de ses soucis au Qatar et tout ça, à un moment, on a voulu me faire écrire des papiers sur Michel Platini. J'ai dit, même si je pense que c'est pas bien ce qui s'est fait avec Nicolas Sarkozy sur donner la Coupe du Monde au Qatar pour des raisons, bon, mais je peux pas écrire sur Michel Platini. J'aime pas toucher aux gens que j'ai aimés. Donc, évidemment que c'est Michel Platini qui a été la lumière de mon enfance. Après, vous savez, j'étais bon au tennis, mais presque par inadvertance. Ce que j'aimais, c'est le foot. Mais je pense que j'étais pas terrible au foot. Donc, bon, voilà.
Il paraît que vous supportez pas, vous ne voulez pas porter le numéro 10. C'est vrai,
non,
ça ?
C'est vrai. Parce que quand on me donne le numéro 10 sur un terrain...
Romain Le Borgne, qui vous connaît votre parcours
parfaitement. C'est dans le couloir. C'est une confidence de couloir.
Ah bon.
oui, Mais oui, c'est vrai que quand j'ai le numéro 10 sur les épaules, j'ai l'impression que je vais faire un mauvais match parce qu'il y a le poids de Michel Platini sur les épaules.
Je vais lui dire. Par exemple, quand on fête les 40 ans de Yannick Noah, ça vous donne de l'émotion quand même.
Oui, bien sûr.
Quand on va fêter l'année prochaine les 40 ans du titre européen de Michel Platini. C'est bien de rappeler ces choses-là aux gens.
Mais en tout cas, moi...
Vous avez un côté vintage que vous aimez ?
Oui, j'ai complètement un côté vintage. Ah. J'ai complètement un côté vintage.
On a encore un point commun.
Oui. Non, mais après, il y a des générations différentes. Je pense que tout ça s'ancre quand même très fortement dans l'enfance. Alors vous, c'était peut-être un petit peu après l'enfance, mais vous avez eu la chance d'être parmi eux en plus.
On était souvent parmi eux avec un certain nombre de journalistes, dont Eugène Saccomanno qui appartenait à Europe 1. Avant que j'arrive à Europe 1, il y a environ 2 ans. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que Charles Baudelaire a écrit un texte magnifique. Les souvenirs, entre guillemets, sont nos meilleurs compagnons. Vous êtes d'accord avec moi ?
Je pense que je vis pas mal...
Je parle en sport, attention.
Oui,
hein.
Mais même en général, en tout cas, il faut s'appuyer sur le passé. Ça nous nourrit. Il y a des figures, je le redis, qui, pour moi, m'ont fait grandir. Et dans le sport, il y a des figures qui m'ont fait grandir. Et même des figures.
Par exemple,
je me souviens de Michael Chang, vous voyez ?
Oh là là, tennisman.
Vous n'aimiez pas ?
J'adorais.
Franchement,
j'adorais.
Voilà, une figure.
Il servait à la cuillère.
Je n'ai jamais rêvé d'être Michael Chang, mais je sais que quelque part, je me suis projeté en étant Michael Chang. C'est-à-dire. Je pense que dans les sports auxquels je jouais, je n'avais pas les armes pour être parmi les meilleurs. Mais je pense qu'en revanche, sur le plan psychologique, la psychologie joue un rôle important quand même dans le sport. Je pense que sur le plan psychologique, Michael Chang était un champion. Quand il met, vous le disiez, c'est quand même en finale face à Ivan Lendl.
Bien sûr.
L'année, je ne m'en souviens plus. Mais qu'il arrive à dominer Ivan Lendl, notamment parce qu'il ne cesse de faire des grands lobes et qu'il empêche Ivan Lendl de jouer. Donc, il ne joue pas un beau tennis, mais il joue un tennis qui contient l'autre.
Il y a 33 ans. C'était en 1989.
Sur la balle de match... Il envoie une balle de match à la cuillère qui fait que Ivan Lendl se loupe complètement. Je me souviens même plus s'il la joue. Il est tellement énervé qu'il veut même pas la jouer. Voilà, il a réussi quelque chose.
Il avait 17 ans, Chang. Ouais. Vous rendez compte ?
Mais ceci, ça a été un one shot. Après, c'était terminé. Parce que justement,
je voudrais vous brancher entre guillemets sur les grands joueurs de tennis que vous avez aimés. Parce que visiblement, vous adorez le tennis, vous adorez le football. Il y a deux sports qui ressortent quand même.
Ouais,
hein.
J'ai beaucoup aimé le tennis. Mais par exemple, je voulais écrire un bouquin sur le rugby. Vous savez que j'ai écrit un bouquin sur le foot. J'en suis très fier. J'ai écrit avec un copain. Vous voyez, c'est toujours par amitié aussi. Antoine Dumini, qui était un joueur de Haucourt-sur-Somme, dont je vais porter le maillot là.
Mais titre de votre livre
comment
en 2014,
le
édition Fakir, comment ils nous ont volé le football, la mondialisation. On est en plein dedans. On va y revenir dans quelques secondes. Donnez-moi des vos idoles en tennis.
Si vous voulez,
c'est
tennis,
pas des idoles, c'est vous aimez
non,
ce
mais,
pas.
Je veux dire, je regarde encore des matchs de Borg, je regarde des matchs de Connors. Je peux être très 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 vintage, c'est-à-dire même avant de quand je les ai regardés pour de vrai. Mais vous voyez, par exemple, Serge Blanco en rugby.
Merveilleux joueur.
Mais voilà, j'étais bon au tennis.
Consultant
mais
d'Europe 1,
ça m'intéressait
pas trop.
Je vous
le dis en passant, consultant rugby d'Europe 1 pour la prochaine Coupe du Monde.
Ça m'intéressait pas. Enfin, le tennis m'intéressait, mais franchement, regarder les matchs de rugby, j'ai toujours adoré ça, quoi. Et évidemment, voir Jean-Pierre Rive, voir Serge Blanco, voir ensuite Pierre Berbizier. J'ai toujours aimé ça aussi, c'est le petit qui se révolte contre le gros. Le petit qui arrive à gagner de côté David contre Goliath. Ce qui est un truc aussi, quand je vous disais Michael Chang face à Ivan Lendl, Ivan Lendl, c'était vraiment le Goliath du tennis à cette époque-là. Et on avait le petit David Chang qui arrivait à renverser. L'équipe de France de rugby, quand elle arrive à gagner contre la Nouvelle-Zélande, quand elle arrive à renverser parfois à contre-temps, à contre-jeu, avec son flair, il y avait quelque chose de magnifique dans tout ça.
Donc je reviens à ma première question. Vous avez rêvé d'être Platini avec le numéro 10.
Oui. J'étais jeune, j'ai rêvé d'être Platini. Oui, c'est clair. C'est très clair.
Avec le numéro 10, que ça vous plaise ou non ?
Avec le numéro 10 à l'époque, oui.
Et si on parlait sport avec François Ruffin, député de la Somme, c'est passionnant. Vous avez écrit un livre. Comment on nous a volé le football, ils nous ont volé le football, c'est la mondialisation, ils nous ont volé le football, on est en plein dedans. C'est-à-dire que sur tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ils sont achetés, loués, prêtés par des investisseurs étrangers. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part.
D'autant que ce n'est pas une fatalité, hein, parce que l'Allemagne, par exemple, ces clubs allemands, eh bien, elle les a fait qu'ils doivent rester 50 plus 1, ça s'appelle comme ça, je crois, la loi du 50 plus 1, qui doivent rester du capital national. Pour dire, finalement, quand on est Lyon, ça doit appartenir quelque part à Lyon et ça ne peut pas appartenir un coup à un Australien, un coup à un Américain. Enfin, vous voyez, ça peut
Principal actionnaire du Bayern de Munich, vous me tendez une perche, Mercedes. Donc, vous voyez, ça reste très allemand.
Et je pense qu'il y a comme ça le besoin d'un ancrage local qui doit demeurer, quoi.
Donc,
Là, c'est évident, je le disais, pour Larry Bosman, il y a une série de mesures qui ont été prises depuis les années 80. C'est vieux, hein, ces choses-là ne se mettent pas en œuvre en un claquement de doigts, mais qui ont été mises en place depuis les années 80, qui fait qu'on a donné une toute puissance à l'argent, qui, vous savez qu'on vend des joueurs par tranche. Enfin, on est dans un espèce de délire de football monopoly dont il faudrait se demander si on veut en dégonfler la bulle. Est-ce qu'on pense que le Qatar a été un espèce de point d'aboutissement de ça ? Enfin, aller mettre la Coupe du Monde dans un endroit où il n'y a pas de spectateurs, c'est quand même... On nage en plein délire. Donc, et je n'ai pas l'impression qu'on en soit au point d'aboutissement. Quoi.
Alors justement, vous me tendez encore une nouvelle paire. Comment vous avez vécu cette Coupe du Monde au Qatar ? Vous l'avez boycottée ?
Non, pas du tout. Et je n'ai jamais prétendu la boycotter. Je n'ai jamais dit que je la boycotterais. Je pense que...
Vous avez regardé les matchs ?
Oui, mais oui, bien sûr. Enfin, je sais comment ça se passe. À partir du moment où il y a des joueurs sur un terrain de foot et où encore plus il y a le maillot de l'équipe de France, il n'y a pas de doute que je serai devant l'écran. Et je peux vous dire que dans mon agenda, à l'avance, les moments où on savait qu'il y avait des matchs de l'équipe de France, ils étaient verrouillés et il n'était pas question que j'ai une réunion publique ce soir-là. De la même manière que j'ai commencé à bloquer les soirées de septembre pour la Coupe du Monde de rugby. Quoi.
Comment vous la voyez cette Coupe du Monde de rugby organisée en France ? Parce que la France a une qualité formidable, formidable organisateur. Quoi alors, qu'il arrive depuis 10 ans, 15 ans.
Dire d'abord que c'est ce qui a permis de redresser le rugby national. Parce que, ça y est, je fais ma petite analyse, mais je voulais écrire un bouquin là-dessus. Le fait qu'on soit très fort au niveau des clubs, ça a posé problème. Les clubs de rugby français sont les meilleurs clubs européens et vraisemblablement les meilleurs clubs mondiaux. Ça a fait que l'argent était de ce côté-là, le pouvoir était de ce côté-là, qui a, en fait... empêcher que la fédération elle puisse prendre un certain nombre de joueurs longtemps avant les matchs, qu'elle puisse les entraîner, constituer un pool et qu'on ait une véritable équipe nationale. Ce qui fait que ça a été une catastrophe. Regardez l'équipe de France pendant des années, c'était une souffrance pour moi. Comparé à Blanco, Berbizier, Rive que j'avais vu dans mon enfance, je lui dis mais je lui donne ça à voir. Et là, on voit autour de Dupont, Antoine Dupont et les autres, la beauté d'un jeu. Non seulement ça gagne, mais ça joue bien.
Et Fabien Galthié, super entraîneur.
Et un entraîneur, mais c'est une structure. C'est-à-dire que parce qu'il y avait la Coupe du Monde, la fédération et les clubs, ils se sont mis d'accord en disant « Bon, on ne peut plus maltraiter notre équipe de France comme on l'a fait auparavant. Vous devez libérer le joueur en avance. Vous devez nous permettre de les entraîner comme il faut. Vous devez nous permettre de constituer une véritable équipe. » Donc c'est pour ça qu'on va rentrer dans cette Coupe du Monde-là en ayant possiblement, on ne sait pas, hein, le sport est une incertitude quand
Bien
même,
sûr,
donc on
ne
sait pas
dit.
Ce qui va se produire, mais en ayant une belle équipe qui a eu des beaux résultats, on verra ce que ça va donner. Mais ce que je ne voudrais pas, moi, ensuite, après la Coupe du Monde, M. Vendroux, sans vouloir sauter les étapes, c'est qu'on revienne au temps où
les clubs... Regardez la Coupe du Monde de 98, elle a quand même très très bien servi au football
mais
français.
J'espère
et
que
et
ça sera
jeunes.
La même chose pour le rugby. Je lance un point d'alerte en disant, voilà, il faut qu'on ait une belle équipe de France, il faut que les clubs ne redeviennent pas égoïstes, si je puis me permettre, comme ils l'ont été auparavant. Il ne faut pas croire que quand une équipe réussit, c'est juste parce qu'elle a des bons joueurs. C'est aussi parce qu'on a réussi à les faire fonctionner ensemble, parce qu'il y a une structure derrière. Parce qu'il y a tout un collectif, toute une politique qui est menée autour de ça. Et autour du rugby, bah, j'espère qu'on construit une belle équipe, qu'on ne va pas le laisser renvoyer façon puzzle, comme on dit chez Audiard, que ça va pas, tout ça ne va pas être renvoyé façon puzzle ensuite.
En vous écoutant, j'ai une question à vous poser. Le Paris Saint-Germain qui veut acheter le Parc des Princes, est-ce que quelque part c'est pas une faute professionnelle de le faire si ça marche ? Le Parc des Princes, ça fait partie de notre ADN, ça fait partie de notre histoire, comme le Stade de France, comme le Stade de Colombes, ça nous appartient, ça appartient à la France. Ça vous choque ?
Moi, ça me choque, oui. Ça me choque que normalement, c'est Paris. Et c'est pas les fonds qataris. Et donc, je pense que le Parc des Princes, il devrait rester...
Au Paris Saint-Germain.
Voilà,
au Paris. Enfin, à la ville de Paris.
À la ville de Paris. Paris, tout à fait. Au-delà de ça, puisqu'on parlait de collectif, c'est comment on fait pour que, là, le Paris Saint-Germain, qui n'est pas mon club de cœur, hein, ça, que les choses soient claires, mais que ça ne soit pas une collection d'individus, de stars posées les unes à côté des autres, mais qu'il y ait une vraie politique pour dire, bah, on fait fonctionner un collectif. Ce n'est pas des vedettes. Là, on a l'impression d'avoir un truc collector où il faut avoir les meilleures vedettes de l'année. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait un club, quoi.
Alors justement, Platini est pour vous votre idole et vous a dit j'aurais bien aimé être Platini. Mmh. Quel est votre club de cœur ?
Depuis l'enfance, là où on va, où on allait quand j'étais môme, c'était au RC Lens, c'était au Stade Bollaert, c'était voir chanter les corons à la mi-temps. Donc voilà, et puis... Alors que vous voyez, je vais avoir un drôle de joueur de cœur, là, qui est beaucoup plus inattendu, Tony Vérel.
Ah oui.
Donc, avec ses longs cheveux dans le cou. Pourquoi j'ai aimé Tony Vérel ? C'était le premier défenseur. Alors, il jouait en pointe. Hein. Il était neuf, quoi. Il jouait à l'extrême attaque.
Mais il est champion de France en 98. Hein.
Exactement. Il ne lâchait rien. C'était pas le plus talentueux. Mais, n'empêche, à la Chiang, voilà... Il ne lâchait rien, il courait sur tout, il avait tout, il avait les crocs, il avait la niaque, il n'arrêtait pas. Et oui, j'ai trouvé beaucoup de générosité dans le jeu de Tony Vérel quand on allait le voir jouer dans ces années-là.
Qu'est-ce que vous gardez de 98, quelque part ?
Je garde Lilian Thuram en demi-finale face à la Croatie. Je crois qu'il avait fait une erreur même.
Thuram, il fait une boulette.
Et ça, c'est, si vous voyez, vous parlez...
Schuker, marque voilà. À cause de Thuram.
Mais vous voyez, en 82, j'étais traumatisé par 82. 84, quand les Portugais mettent par hasard un but de Jordão, il tape sa tape sur le sol, ça lobe le gardien. Enfin, c'est un but qui ne devrait pas exister. Je monte me coucher tellement je suis déprimé. C'est mon père qui revient me chercher au lit pour me ramener devant la télévision en me disant ils ont égalisé, ce à quoi je ne croyais pas parce que je voyais un tunnel de dépression devant moi. Mais donc, 98, Thuram qui met deux buts ensuite, qui lui arrivera plus jamais. Bon, ben voilà, c'est ça que je retiens de 98.
Et 98 aussi. 98, c'est quand même le must. Vous êtes d'accord ? Le black blanc-beurre, il a vraiment existé ?
Bah, c'était évident quand on regardait l'équipe de France de l'époque. Après, on ne peut pas tirer de conclusions hâtives sur ce qui se passe sur un terrain de foot et ce qui se passe dans la société. Ça peut être quand même deux choses qui sont complètement différentes. Mais je pense que ça fait donner une fierté national, enfin on l'a eu, comme disait votre collègue Thierry Roland. Maintenant, il pouvait mourir parce qu'il avait enfin vu la France remporter une Coupe du Monde.
Quoi. Et 2018.
Mais c'est pas pour autant le moment où on a le mieux joué.
Non, pour moi.
Non. Par exemple, la meilleure équipe de France, je pense, c'est l'équipe de 2020. Et même 2006, je me confonds un peu dans les dates, mais 2006, ils font une très bonne Coupe du
Bien
Monde.
Sûr.
Qui, avec le coup de boule de Zidane, en finale, malheureux, parce que je pense que sans ça, on est en train de dominer les Italiens et on va gagner contre cette finale. Moi, je pense qu'on était en train de gagner et il y a ce coup de boule qui arrive et qui nous coupe un peu les pattes. Mais sinon, je pense que la plus belle équipe de France, pour moi, si je suis objectif, parce que là où est mon cœur, c'est 82-84. Mais je pense qu'entre la Coupe d'Europe de 2000 et la Coupe du Monde de 2006, c'est sans doute les deux plus belles Coupes du Monde.
Je terminerai par 2018 quand on est champion du monde en Russie.
Je suis content.
Pareil.
Je suis content parce que j'ai mon fils et il voit la France gagner. Donc ça, c'est bien quand même. Mais en même temps, franchement, on n'a pas brillé. J'étais presque belge, vous voyez. Normalement, la Belgique, là, elle incarnait quelque part la France. C'est-à-dire une belle équipe, mais qui ne gagne pas, quoi.
François Ruffin, merci.
Le panache, c'est important quand même. L'équipe de France a quand même été plein de moments de panache, pas toujours récompensé, mais plein de moments de panache. Des fois, je me demande si on n'est pas devenu allemand. Vous voyez ?
Il ne faut pas exagérer quand même.
Mais vous voyez, parce que finalement, il y a des moments où on joue mal et on gagne. Et ça, c'était quand même typique de l'équipe allemande.
En tous les cas, François Ruffin, député de la Somme, passionné de football, invité sur Europe 1. Et si on parlait sport, vous avez été, je le dis clairement, passionnant. Et moi, ce qui me rassure en tant que Français républicain, c'est que les gens qui peuvent un jour nous diriger, eh bien, s'intéressent au sport et connaissent aussi bien le sport que vous. Peut-être que dans notre vie, vous pouvez être ministre sport.
Mais vous savez, quel que sera le poste, si c'est défenseur, milieu droit, attaquant, si jamais je peux participer à mettre de la joie dans le cœur des gens de mon pays, je le ferai, quel que soit le poste, quel que soit le ministère auquel on doit aller. Si c'est le ministère de l'Agriculture, je pense qu'il y a affaire en la matière. Et si c'est le ministère des Sports, vous savez, Léo Lagrange, quand même, grand ministre du Front Populaire, qui a participé à la démocratisation des loisirs et du sport. Donc si jamais il peut y avoir un nouvel élan de Léo Lagrange, je prendrai.
Merci François Ruffin.
Merci à vous.